aussi.
D'accord.
Voilà, on a eu un petit peu de théorie tout à l'heure, et c'est normal, Paul donnait toujours dans ses lettres une partie un peu doctrine. C'est tellement important de poser des fondements, et puis à travers tous ces versets que Yann a lu, quelques éléments qui sont bien soulignés, ça nous permet de saisir un petit peu mieux ou un peu moins mal des dimensions de l'héritage que Dieu nous a transmis en Christ et qui concerne ce domaine si sensible, si important de l'autorité spirituelle. Et vous verrez qu'il y a toujours cette première partie d'enseignement un petit peu théorique, je dis bien, c'est un petit peu théorique. Puis après, on essaye de voir dans la pratique comment est-ce que ça s'incarne dans nos réalités. Et je ne sais pas du tout qui vous êtes, ce que vous vivez, si c'est ce domaine de l'infériorité, de l'insignifiance, il vous semble que ça vous concerne un petit peu, beaucoup, pas trop. Mais on va pouvoir essayer d'examiner, de comprendre un petit peu ce que ça signifie et puis en quoi justement cette dimension de l'autorité de Jésus-Christ, des fois on ne l'utilise pas ou pas assez ou médiocrement, j'ai envie de dire. Et c'est bien là l'idée. Quand on parle d'infériorité, j'ai envie de dire il y a un peu une composante psychologique. On est d'accord. Je sais pas si vous jouez au tennis. Moi, j'ai fait un peu de tennis dans ma vie. Je n'étais pas terrible, mais je pense que si j'avais l'occasion une fois de jouer contre Roger, notre idole nationale en Suisse, Roger, ben, c'est vrai que c'est un peu légitime que je sois là un peu tremblant en disant « bon, je vais me ramasser une défaite incroyable ». Mais ça, c'est un petit peu normal. Hein, il peut y avoir une composante psychologique où on est comme ça un petit peu paralysé. Voilà. Maintenant, il y a un domaine spirituel qui est plus sérieux, plus important, plus conséquent par rapport à notre identité profonde d'être humain. Parce que finalement, si je fais un match de tennis, ben, c'est un sport, c'est un jeu. Hein? Mais il y a des notions qui sont bien plus conséquentes. Et dans ces formations, on essaye de réfléchir avec une image d'un arbre, de se dire, ben voilà, si je vois un arbre, je vois le tronc, ce qui est la force d'un arbre, comme ça. Et puis, on dit, là, c'est ce qui représente des forteresses dans nos vies. Et ce soir, on va parler de l'infériorité, de l'insignifiance. Il peut y avoir d'autres choses, la peur, le rejet, etc. Et puis, qu'est-ce que ça porte comme fruit? Eh bien, si on est dans l'infériorité, ça peut être redoutable. Hein. On peut peut-être être jaloux, on peut être intimidé, timide. On ne peut pas donner notre plein potentiel alors que nous sommes créés à l'image de Dieu. David dit que je suis une créature merveilleuse. Et tout ça, on peut le savoir aussi en théorie, mais dans la vie, parfois, on peut avoir beaucoup, beaucoup de peine de le vivre. Alors bien sûr, il y a une raison, et j'aime bien l'image de l'arbre, mais pourquoi dans le fond une personne pourrait être aussi intimidée? Qu'est-ce qui se passe? Et souvent on voit qu'il y a eu des déficits d'amour, ça c'est les racines. Il y a eu peut-être des traumatismes dans nos vies. J'étais la semaine dernière avec un homme qui travaille beaucoup, qui a un ministère parmi les couples, il était là avec sa femme, et il nous a parlé de la violence. Vous savez qu'il y a quand même beaucoup de violence conjugale. Hein. Les chiffres sont assez effrayants. Mais il nous disait, il y a des violences qui sont physiques, bien sûr, qui sont redoutables. Mais il y a des violences verbales. Quand un homme ne cesse de répéter à sa femme qu'elle est nulle, que de toute façon il aurait mieux fait d'épouser une autre, etc. Enfin, des discours épouvantables. On peut démolir quelqu'un psychologiquement, mais spirituellement aussi. Et dans le livre, ceux qui l'ont acheté, j'ai vu qu'à la page 220 à 222, par exemple, il y a l'histoire de Catherine, c'est une femme dans le fond, qui a vécu dans une famille où il y avait un problème de misogynie. Et c'était son père et méprisait les femmes et l'a méprisé, et son oncle aussi, etc. Enfin, c'était de manière assez incroyable, et sur des générations entières, c'était comme ça. Et cette femme, elle était démolie psychologiquement et spirituellement. Alors, elle a essayé de compenser. Alors, elle avait des capacités intellectuelles, elle a travaillé à fond, elle a été cadre dans une entreprise, etc. Puis à un moment donné, elle a craqué, elle a fait une grosse dépression. Vous pouvez lire cette histoire, ceux qui ont le livre, page 220 à 222. Et puis elle a pu prendre conscience justement de ces dimensions, de l'autorité spirituelle que le Christ nous donnait, le fait qu'on était des créatures merveilleuses, qu'elle avait de la valeur aux yeux de son Père Céleste. Et il y a eu tout un chemin dans cette famille, parce que les autres femmes de la famille étaient aussi concernées par... il y avait comme une malédiction sur cette famille qui se transmettait de génération en génération. Alors, voilà deux ou trois éléments par rapport à l'infériorité. Là, on voit bien que ça va plus qu'on sort simplement du complexe psychologique. Comment est-ce que le diable travaille dans ce domaine? En introduction, là, ils nous disent, le stratagème de Satan, c'est par exemple de faire croire aux hommes qu'ils n'ont pas besoin de l'amour de Dieu et du pardon de Dieu. Si vous aimez témoigner un peu de Christ autour de vous, en Occident, il y a une masse d'indifférence, c'est assez impressionnant. Quoi ? Dieu est amour ? En quoi ça me concerne ? C'est bien si tu y crois, mais moi... Si on veut parler du pardon, mais pourquoi j'ai besoin d'être pardonné, hein, etc. Et puis, à l'inverse, peut-être qu'on est chrétien, qu'on croit qu'on a besoin de l'amour et du pardon de Dieu, mais peut-être qu'on se dit, mais je ne le mérite pas. C'est pas possible, je suis trop mauvais, je suis pas assez ceci, pas assez cela, c'est pas possible que Dieu vraiment m'aime d'un amour infini et ça me dépasse totalement. Un amour inconditionnel, pour moi, j'arrive pas à comprendre ce que cela signifie. Donc, il peut y avoir des fausses croyances qui sont à l'origine de cette infériorité. Il peut y avoir des traumatismes, il peut y avoir beaucoup de choses. Je commence par deux ou trois témoignages comme ça, pour nous aider à comprendre un petit peu les enjeux là. J'ai assisté un jour à une rencontre, à un culte, avec plusieurs églises, et puis à la fin de ce culte, on est allé prendre l'apéritif dans un collège qui était juste à côté de ce lieu de culte. Et puis voilà, c'était sympa, on a eu très beau culte, bonne ambiance à l'apéritif. Et puis le lendemain, j'ai croisé un chrétien que je connaissais, un homme d'environ 70 ans. Et puis, on a parlé du culte, il a trouvé ça très bien. Puis il m'a dit, mais tu sais, c'est curieux quand même, cet apéritif. C'est la première fois depuis mon enfance que je retournais dans ce collège. Et tout de suite, ce qui est monté dans mon esprit quand je suis entré, quand j'ai franchi le seuil de ce collège, c'est cet épisode que j'ai vécu avec un enseignant. Et vous savez que les enseignants, comme les pasteurs, etc., les figures d'autorité, ben voilà, c'est important les paroles que prononcent des gens comme ça. Et puis il dit, mais cet enseignant, à un moment donné, il a pété un câble, il m'a fait venir devant toute la classe, et il m'a dit, Bolomé, je t'aime bien, mais tu es un imbécile et un con. Et moi, ça m'a beaucoup frappé et touché ce que m'a partagé ce frère en Christ, que j'aime beaucoup. Parce que j'ai remarqué, j'ai été plusieurs fois en contact avec lui, que c'est un homme qui, à mon avis, est dans un combat au niveau de l'infériorité. C'est-à-dire plusieurs fois, quand j'ai été avec des cultes, dans des cultes avec lui, il a reçu une image, une parole, même parfois prophétique, ou il a lu un texte à haute voix, puis... Chaque fois que je le croisais après ça, à la sortie d'un culte, il avait toujours besoin un peu de se rassurer. Il m'a dit, mais Est-ce que j'ai pas pris trop de place dans le culte? Est-ce que c'était compréhensible ce que j'ai dit? Enfin, etc. Et je me disais, mais j'ai relié, je me suis dit, mais tiens, cet épisode qu'il a vécu avec cet enseignant, je me demande dans quelle mesure ça n'a pas tordu un peu le développement de cet arbre, de sa vie, pour porter un fruit plus paisible, plus conséquent. Et voilà, bon, j'ai pu continuer de revoir cet homme parce qu'on s'aime bien, on a une bonne communion fraternelle. Et puis progressivement, on a pu commencer à évoquer ces choses. Et j'essaie de l'encourager au maximum pour essayer de redresser cette espèce de tour de Pise là qui pousse de travers. Donc il peut y avoir pas mal d'éléments qui peuvent nous conduire dans cette dimension. Je ne résiste pas à vous dire, j'aimerais bien qu'on puisse faire un petit moment d'exercice au niveau de la Bible. On va le faire très courtement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais vous pouvez y réfléchir, vous dire, mais tiens, dans la Bible, est-ce qu'il y a des personnages qui ont pu vivre sous une forme de forteresse d'infériorité et puis qui se sentaient insignifiants, dit moins que rien? Alors, j'aime bien ce texte. C'est l'ange de l'Éternel qui vient vers Gédéon, c'est du temps des juges, hein. Et c'est environ 1300 ans avant Jésus-Christ, ça. Et puis il dit à Gédéon, au moment où Israël était constamment dominé par des peuplades étrangères qui venaient faire des razzias en Israël, et puis Dieu suscitait dans sa bonté toujours des juges, des gens qui allaient être revêtus de l'autorité de Dieu pour faire face à ces envahisseurs. Alors ces envahisseurs avaient l'autorisation de Dieu de venir parce qu'Israël avait été désobéissant, était idolâtre, incrédule. Mais l'ange de l'Éternel, ou l'Éternel dit, « Va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Et il lui répondit, « Ah mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici que ma parenté est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Hein, » Juges 6, 14, 15. Alors c'est vrai qu'un déficit d'amour ou certains traumatismes ou d'autres choses qui peuvent se passer dans notre vie peuvent nous conduire dans ces situations-là. Peut-être qu'on a vécu dans la pauvreté ou peut-être parmi un peuple qui est méprisé, suivant la couleur de peau qu'on a. Ça peut être vraiment quelque chose qui est difficile à gérer. Des éléments qui nous permettent de reconnaître si vraiment on a ces luttes, ces combats qui peuvent être très douloureux. Ben voilà, ces caractéristiques, on croit qu'on a moins de valeur et moins d'importance que les autres. Ça peut être assimilé à des complexes, encore une fois, mais c'est plus que cela parce qu'il y a une composante réellement spirituelle où le diable nous influence. Et il va falloir trouver des chemins pour aller plus loin, pour sortir de ces impasses. On a le sentiment de ne pas être au même niveau que les autres et d'être inadéquate. Peut-être qu'on n'a pas réussi des études universitaires, peut-être qu'on est dans une fratrie où tous les autres membres de la famille ont été des brillants universitaires, et puis moi j'ai fait un apprentissage, ou peut-être même pas un apprentissage. Ben, ce n'est pas facile à gérer, hein, dans des familles où il y a un enfant qui est brillant. Hein, il y a Billy Graham qui vient de décéder. C'est intéressant de voir qu'il a eu 5 enfants. Hein. Il y avait un article dans le Christianisme aujourd'hui, là récemment, là-dessus, il dit, ben, les autres enfants, ils ne sont pas vraiment à la hauteur de leur père. Parce qu'un Billy Graham, il n'y en a eu qu'un. Alors comment ils arrivent à se situer? Et puis c'est une grande entreprise aussi, Billy Graham. Ils diffusent des films, des livres chrétiens, etc. À qui on va confier vraiment ce domaine-là? Etc. Donc, suivant où on est, ce n'est pas évident. Et si on lit l'histoire de Gédéon, la relation avec son père, ben, elle est un petit peu ambivalente. Hein. Je vous encourage à lire Juges 6 et à vous poser des questions à ce sujet. Souvent, la personne se voit comme un échec. Et le sentiment d'infériorité produit d'autres forteresses secondaires telles que la jalousie, la pitié de soi et l'insignifiance. Et c'est là une des difficultés. c'est que si déjà il y avait juste à se battre avec l'insignifiance, l'infériorité, ce serait déjà tout un chapitre, mais on va laisser dans nos cœurs des pensées qui ne sont pas très nobles, pas très louables. Et sur ces terrains-là, eh bien, l'ennemi se frotte les mains parce qu'il va avoir une prise. Vous verrez quand la prochaine fois il y aura l'enseignement sur les forteresses, comment ça se passe, il se sera développé. Alors il y a un travail qui est proposé dans la brochure à partir de la page 75. Ben voilà, sur ces questions, on n'a pas le temps de le faire ce soir, mais c'est juste une introduction un petit peu à la thématique. C'est peut-être surtout pour nous rendre sensibles à ces dimensions. Ça permet d'examiner dans nos cœurs, devant Dieu, s'il veut nous montrer quelque chose à ce sujet. C'est lui qui doit nous révéler par son esprit ces dimensions. Parce que dans les points qu'on va lire, il y a sûrement tous, on est concernés plus ou moins par l'un ou l'autre point. Mais si dans chacun de ces points, ça nous travaille, eh bien, c'est qu'il y a sans doute quelque chose à prendre en considération. On remet en question notre valeur. On est conduit à l'égocentrisme parce qu'on essaie de s'en sortir, hein, de se faire une place dans la société, mais à la force du poignet. Le système de compensation qui est développé par l'infériorité, moi je l'ai vu plusieurs fois avec des hommes, alors qu'ils se sont étourdis dans le travail pour essayer, déjà par rapport à leurs femmes, des fois ils étaient dans l'infériorité, et ils ont essayé de faire leur chemin à la force du poignet. Hein? Pour essayer de gravir les échelons de l'échelle sociale. Vous savez, par exemple, qu'il y a beaucoup de chefs d'État sur cette terre qui sont des orphelins. Ils n'ont pas eu de parents. Alors, certains orphelins sombrent dans l'alcoolisme, et puis il y en a d'autres, justement, ils trouvent une énergie incroyable pour essayer de gravir les échelons sociaux. Voilà, mais comme c'est à la force du poignet souvent, c'est à un moment donné, ben ils sont peut-être confrontés à des circonstances où ça va plus jouer parce qu'ils vont peut-être plus être réélus, ils vont être destitués, ils vont être renversés, etc. Ils vont être mis dans une prison parce qu'il y aura une révolution. Puis là, ils sont confrontés à eux-mêmes, à leurs vrais besoins profonds, et puis c'est peut-être dans ces circonstances qu'ils vont vraiment rencontrer Dieu. Le fait que nous comparons aux autres, nous occuperons toujours la place inférieure. Voilà, cela nous conduit à craindre et à éviter les défis saints qui nous sont donnés par Dieu pour notre croissance, parce qu'on va marcher selon la chair et non pas selon l'esprit. L'infériorité est basée sur l'incrédulité quant à notre autorité en Christ et à notre place dans son corps. On a parlé d'autorité tout à l'heure, alors je le souligne, ce passage-là. Il y aura certainement tout un positionnement, on va y venir tout à l'heure, quand on va évoquer cette prière des 4 heures. Parce que le Seigneur, il a d'autres choses à nous dire, il a un autre message. Hein? On est tous différents les uns des autres. Mais il y a un cheminement dans lequel on doit entrer. J'étais la semaine dernière avec un jeune pasteur qui fait une année de stage dans une église et puis il commence à s'inquiéter un petit peu parce qu'on arrive fin mars, début avril et puis cet été il faut qu'il trouve absolument une place dans une église comme pasteur. Il a une famille à nourrir, etc. Et puis il est allé se présenter dans une église qui cherche un pasteur et puis j'ai prié avec lui avant ce moment, cette rencontre avec le conseil de cette église et puis quand je l'ai revu un peu plus tard, j'ai dit « Comment ça s'est passé cet entretien ?» Il m'a dit « Ben écoute, il me semble que ça s'est assez bien passé l'entretien. Mais alors la sortie, ça m'a tué. » Ah bon ? J'ai dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il m'a dit « Tu ne te rends pas compte ? J'ai rencontré sur le pas de porte le candidat suivant. Et puis c'est une grosse pointure dans le corps de Christ, j'ai aucune chance. C'est foutu. » C'est intéressant quand même. se dire, mais attends, c'est un peu comme Samuel hein, qui va dans la famille d'Isaïe hein, à Bethléem pour oindre le futur roi d'Israël. Hein. Il voit d'abord les grosses baraques et tout, les frangins qui sont baraqués. Puis chaque... il dit, oh, c'est sûrement celui-là. C'est sûrement cette grosse pointure dans le corps de Christ. Et puis, non, Dieu lui dit, l'Éternel regarde au cœur hein, et non pas aux apparences. Alors voilà, avec ce jeune pasteur, on a commencé à discuter sur ce terrain un peu, dire, mais attends, écoute, aie confiance, si Dieu te veut dans cette communauté, ben peut-être qu'il va appeler cette grosse pointure à aller dans une autre église, parce qu'il sera mieux dans cette autre église, et puis que toi, tu auras une place. Et de toute manière, il a un chemin pour toi. Tu sais qu'il t'a appelé au ministère, tu en as eu des confirmations. Hein? Alors Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Vous voyez, mais on a beaucoup de combats au niveau de la confiance. Et c'est encore une fois là qu'il nous faudra voir comment est-ce que on peut aller plus loin. Voilà, on peut trouver le réconfort dans la pitié de soi. Hein. Ouais, de toute façon, j'y arriverai jamais. C'est bien ce que me disait mon père. T'es nul. Hein. Ça se confirme. Puis on est dans l'apitoiement. Est-ce que c'est vraiment... C'est ce que le Christ veut pour nous, nous a accordé dans l'héritage qui est le nôtre, nous conduit à critiquer. Je ne sais pas si ça suit là-bas derrière, mais peut-être pas. C'est bon, ça suivait. Nous conduit à critiquer ceux qui sont différents. Nous conduit à retenir une bénédiction pour les autres, etc. L'insignifiance cherche l'approbation des autres. Conduit à l'ambition. Voilà, tout ça, vous pouvez lire chacun des chapitres, c'est développé. Mais ce n'est pas le but qu'on le fasse tous ensemble ce soir, ça prendrait trop de temps. J'essaie juste de vous sensibiliser un petit peu au thème, au domaine, parce que ça peut nous aider, vous aider. Honnêtement, quand j'ai lu cette brochure, j'étais convaincu que l'insignifiant, c'était pas, ça me concernait pas. Et puis finalement, j'ai vu que c'était quand même assez subtil cette histoire. Je me suis revu dans certaines circonstances, notamment à un moment donné, j'ai fait partie à Lausanne de l'Alliance évangélique. Ça s'appelait à Lausanne, ça s'appelle je crois encore, ils ont changé de nom, l'Action commune d'évangélisation de Lausanne. Et je me suis rendu compte que, l'air de rien, ben, devant certains, il y avait certains pasteurs effectivement qui étaient aussi des grosses pointures dans le ministère, etc. Ben, j'étais pas si à l'aise que ça. Hein. J'ai été invité une fois à prêcher à la cathédrale à Lausanne. Et pour un Lausannois, pour un Vaudois, c'est un honneur suprême. Mais moi, j'étais dans mes petits souliers, déjà, de voir le pasteur à la cathédrale avec sa robe, etc. Moi, je n'ai pas fait des études de théologie universitaire, j'ai fait une école biblique. Hein, je me suis retrouvé un peu dans la situation de Gédéon. Là. Donc, j'étais mais paralysé pour amener un message à la cathédrale. C'était juste incroyable. Donc, Saint-Esprit, je crois, c'était lui qui me montrait, mais enfant, tu fais un peu le malin là, mon gars, mais peut-être tu as encore du chemin à faire, et effectivement, j'ai été, par exemple, il y a 3 ans au Liban pour les cours Vive Libérés, là, j'étais équipier de prière, on était avec Mike Richards, là, celui qui a fait ce cours. Et puis j'avais un gros problème, parce que tout était en anglais, même si au Liban, certaines personnes parlent le français, mais en réalité, bon, c'est un peu français, c'est beaucoup arabe. En principe, les gens savent l'anglais. Puis il fallait prier pour les gens en anglais. Alors, moi, j'ai passé 4 mois à Londres pour apprendre l'anglais, mais quand il fallait sur le terrain du vocabulaire religieux, spirituel, et puis être en situation d'écoute, etc. Et j'étais pas mal en lutte, j'ai eu beaucoup hésité à accepter d'abord, mais il manquait des équipiers de prière, alors j'y suis allé, à la Vincarie un petit peu. Alors ça c'était déjà assez hein, au niveau du combat. Mais ensuite, on m'a mis dans l'équipe où on formait un duo avec Mike Richards, fameux américain, pasteur, qui depuis 25 ans fait du travail de prière, écoute le Seigneur pour des gens et prie pour eux. Et là, ça m'a achevé. Dans un premier temps, parce que moi, quand je prie pour les gens, il me faut bien quelques minutes pour essayer d'entendre quelque chose que le Seigneur veut bien me confier. Et puis lui, il avait une feuille A4. Après 30 secondes, il commence à écrire. Et plus il écrivait, et plus j'enfonçais dans mon trou. Voilà. Donc, j'ai dû me mettre vraiment devant Dieu, dire, mais attends, qu'est-ce que je fous là, d'abord, enfin, qu'est-ce que je fais ici? Et puis après, tout d'un coup, ça a basculé. J'ai compris, l'enfant, mais c'est magnifique, cet homme, il reçoit si facilement des pensées. Donc, gentilson, détends-toi. Parce que, de toute manière, dans le temps qu'on a avec la personne, on va peine faire les deux premières lignes de ce qu'il a écrit. Et à partir de là, j'ai pu me détendre et puis j'ai commencé à recevoir des choses. Je n'ai jamais reçu toute une page comme lui. Mais j'ai reçu, si elle a juste un mot, où il lui-même a dit, mais fantastique Guy, tu as reçu ça, ça confirme une pensée que j'avais dans mon cœur et j'avais besoin de cette confirmation. Le petit Suisse, hein. Mais voilà, je ne suis pas Mike Richards. Je ne suis pas Billy Graham. J'aime bien l'évangélisation. Mais je suis moi, et puis le Seigneur m'utilise dans certains domaines, dans certaines circonstances. Hein, arriver à être soi-même devant Dieu. C'est vite dit, mais parfois il faut vraiment tout un chemin pour qu'on puisse le vivre. Alors, au boulot. Être affranchi, page 76, l'infériorité et de l'insignifiance. La fameuse prière des quatre R. Alors là, c'est des modèles de prière qui sont là, qui sont proposés. C'est donc basé sur Jacques 4, 7, 8. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Et l'air de rien, c'est ces prières, on peut les personnaliser. Ce sont des canevas qui sont des supports, mais c'est des béquilles. Mais si vous pouvez y aller avec vos mots à vous, ben, tout simplement d'abord reconnaître. Hein, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour la manière dont j'ai permis à l'infériorité et à l'insignifiance de marquer ma vie et les vies de ceux qui m'entourent. Puis si on a coché beaucoup de choses dans ces pages qui nous sont proposées, ben, on peut nommer certaines choses. On dit, mais Seigneur, mais dans le fond, mais je me rends compte, mais c'est incroyable, je suis aveugle, je suis incrédule. Parce que toi, dans le fond, quel est ton regard? Mais ce n'est pas du tout ce propre regard autodestructeur que j'ai conservé. Mais on va voir dans un deuxième temps, on va voir que le diable, il a utilisé certaines fragilités de nos vies pour occuper un terrain. Hein? Mais je peux me positionner par le... Alors je te demande pardon, Seigneur, d'avoir marché dans l'incrédulité concernant ton amour pour moi. Hein? La manière dont tu m'as créé et tes plans pour moi. Je reconnais cela comme un péché. Vous savez, on n'est pas du tout, mais pas du tout obligé de se repentir juste une fois dans la vie quand on devient chrétien. C'est pas interdit, c'est même conseillé en cours de route à plusieurs reprises de confesser nos péchés à Dieu. Et c'est un peu dommage que les réformateurs ont été tellement de l'autre côté de la ligne des catholiques où il fallait toujours passer devant le prêtre pour confesser ses péchés. Puis les réformateurs, je sais, bon, après, quand il fallait prendre la scène, je crois que Calvin, c'était une fois par mois, puis les anciens allaient visiter les chrétiens pour vérifier s'ils pouvaient prendre la scène. Mais la confession dans le monde évangélique, c'est souvent un mot qu'on oublie, qu'on ignore. Et c'est dommage. Et qu'en est-il si vraiment Dieu vous parle dans ce domaine de l'infériorité, parce que c'est votre situation et c'est douloureux, c'est difficile. Est-ce que ce ne serait pas une invitation par le Saint-Esprit à prononcer ce genre de prière? Un deuxième élément, deuxième étape, résister. Et ça aussi, je constate, c'est souvent difficile de résister au diable. Oui, Jésus, tu as vaincu Satan, c'est fantastique, maintenant je suis dans la victoire. Mais aller un peu plus loin, ça c'est déjà bien. Aller un peu plus loin parce qu'on peut nommer des esprits méchants, on peut dénoncer des esprits mauvais, des esprits de confusion, des esprits impurs, Hein, vous savez que Luther disait, on ne peut pas empêcher les oiseaux de tourner autour de nos têtes, mais on peut les y empêcher de s'y poser, d'y faire leur nid. Et puis on peut dénoncer là des stratagèmes. Par exemple, une prière qui pourrait être faite dans ce sens. Au nom et dans l'autorité de Jésus, je renonce à tout esprit d'infériorité et d'insignifiance et je les chasse. Je prends autorité sur chaque domaine de ma vie que j'ai laissé sous l'influence de l'infériorité et de l'insignifiance. Tout esprit de colère, de jalousie, de comparaison, de pitié de soi, d'incrédulité, de rébellion, d'insécurité, de mensonge doit partir de moi et aller au pied de Jésus. Alors peut-être qu'on n'a pas toute cette liste à confesser ou à résister, mais on peut discerner, on peut demander un esprit de discernement. Puis on peut être étonné de voir qu'il va se passer quelque chose. J'ai un pasteur que j'ai vu aussi la semaine dernière. Il me disait, mais pendant des années, j'ai jamais prié pour la guérison des gens, donc j'ai jamais vu de guérison. Il dit, ben, maintenant, depuis quelques années, j'ai commencé à prier pour les guérisons, pour la guérison des gens. Alors, parfois, il y en a qui sont guéris, ils ne sont pas tous guéris. Mais par rapport à ce que je vivais dans le passé, j'ai vu une sacrée différence, très sensible. Alors, je vous interpelle dans ce domaine. Est-ce que vous prenez l'autorité du nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un a un couteau suisse parmi nous? Hein, tu as un couteau suisse?
C'est une dame qui a un couteau suisse. Pour se défendre. Ah, il était dans le sac.
Je suis une femme, ça qui est en plongée.
Voilà, magnifique. Au nom de Jésus, hein, par l'autorité, hein, qu'est-ce qu'on a parlé là, l'autorité de la force. Voilà. Ouais, j'ai un peu de la peine à ouvrir les lames, mais voilà, je suis sorti aussi. Ah, Satan, tu dois fuir, hein? Il décampe, hein, le diable. Non. Prenez l'épée, parce que vous êtes des guerriers de Jésus-Christ. Éphésiens 6, l'épée de l'esprit, de la parole de Dieu. Bon, Jacques. Ça fait quoi, ça? Ben, c'est déjà bien, non? C'est ce que vous prenez. C'est déjà mieux que le couteau. Vous êtes d'accord? J'aime bien cette image. Elle est toute simple, mais j'espère qu'elle vous parle. S'il y a une chose à retenir de cette soirée, en lien avec l'enseignement sur l'autorité et des forteresses, quelles qu'elles soient, que ce soit l'infériorité ou d'autres choses, voilà. C'est dire, mais attends, l'épée du Seigneur qui met entre nos mains, il ne faut pas la laisser dans le fourreau, hein. Il faut la sortir. L'autorité et la puissance, c'est quelque chose. Hein. J'ai le droit, parce que je suis enfant de Dieu, racheté à un grand prix. J'ai le droit d'exercer l'autorité. Et j'ai la puissance. Je suis revêtu de Christ. Et il y a tout l'équipement du chrétien qui est à nos dispositions. Mais c'est d'abord la parole vivante faite chair. Christ vit en moi. Et puis cette parole, l'écriture avec toutes les promesses, avec tout ce que Dieu nous décrit dans cette armure et dans des assurances inouïes. Alors est-ce que c'est juste qu'on laisse le diable nous maintenir dans des captivités? Alors résister à l'ennemi, ce n'est pas réciter des formules, on se comprend bien, mais c'est s'emparer de la parole dans toute sa saveur, dans toute sa splendeur. Et si vous soulignez dans la Bible le nombre de passages dans l'Évangile, etc., où Jésus s'est opposé à ses esprits, à ses puissances. Et puis comme Yann l'a dit tout à l'heure, ben, c'était communiqué aux 12, puis après aux 70. Puis on voit que dans le livre des Actes, bien, les disciples ont vécu cela. Ben, ça change votre vie. L'ennemi doit se taire, il doit s'en aller. Et puis, on va remplacer. Je remplace tout mensonge de l'ennemi par la vérité de... Qui est Dieu? Ce que Dieu dit de moi. Je choisis de croire que je suis précieux, aimé par Dieu, choisi par lui, et qu'il ne me refuse aucun bien. Alors voilà, il y a donc une étape décisive qui consiste à être affranchi de l'infériorité et de l'insignifiance. Et c'est là que les moments de prière avec les équipiers peuvent être hyper précieux. Parce que ces gens qui se sont formés, qui vont venir pour vous bénir, ils vont vous donner une occasion justement, peut-être de confession, là où deux ou trois sont assemblés au nom de Jésus, avec la présence de Jésus d'une manière magnifique. Et puis, peut-être que c'est quelque chose dont on n'avait pas pris conscience, par exemple l'infériorité ou d'autres choses, le rejet, la colère, etc. Et puis là, on peut vivre un moment particulier, parce que c'est un peu comme quand il y a un baptême, on confesse le nom de Jésus publiquement devant témoins, et si le diable vient nous titiller par la suite, le Saint-Esprit peut remettre dans notre cœur le fait qu'on a, on a confessé publiquement le nom de Jésus, on n'a pas honte du nom de Jésus. Et puis là, pour des forteresses, etc., on a résisté au diable. Alors, ça ne veut pas dire que le diable ne va plus venir nous embêter sur ce terrain, et il va falloir vivre libéré de l'infériorité et de l'insignifiance. On va revenir dans un moment. Mais voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer. Le quatrième élément de la prière, eh bien, voilà, on reçoit, vous direz ça, et c'est comme un renouvellement, une onction de l'esprit qui vient sur nous. Hein? Mais on n'est pas au bout, c'est-à-dire qu'il y a eu une étape décisive et il va falloir entretenir cette relation avec Dieu. Alors, c'est la nuance entre être affranchi de l'infériorité et puis vivre libéré de l'infériorité et de l'insignifiance. C'est-à-dire que ben, peut-être que le diable, il va revenir de temps en temps, mais on peut de nouveau se repositionner. Et cette prière des quatre R, c'est pas interdit de la refaire à quelques reprises dans notre existence. Hein? Parce que jusqu'au bout du chemin, mes amis, je suis désolé, c'est une mauvaise nouvelle, ça, mais le diable, il va jamais nous lâcher. Et au contraire, plus vous serez engagé avec Christ, plus il va essayer de vous faire trébucher. Mais plus vous marchez avec Christ, plus vous recevrez aussi un équipement adéquat. Mais ça ment, bon, c'est bien si vous venez au culte tous les dimanches. Mais c'est bien, le culte chrétien, normalement, c'est chaque jour qu'on s'offre à Dieu. Chaque jour qu'on a besoin de recevoir sa parole. Chaque jour que, dans la louange, l'adoration, on reçoit des vitamines, des forces nouvelles. Hein? C'est bien si on peut faire partie d'un groupe de maison qui, dans la semaine, se retrouve aussi pour prier les uns pour les autres, partager nos fardeaux, etc. Alors, voilà, il y a plein, ça correspond à se remplacer. Là, il y a plein d'éléments qui sont soulignés. Vous avez tout ça dans la brochure, donc je ne vais pas insister. Moi, j'ai envie de dire, quand j'ai lu ça, il y a sept éléments qui sont mentionnés. Dieu m'aime beaucoup, Dieu m'honore, etc. En tout cas, j'ai de la valeur. J'ai repensé à cette prière d'Éphésiens 3. Vous savez, quand Paul prie pour les Éphésiens afin qu'ils puissent mieux comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Jésus-Christ. Là, on se plonge dans un océan d'amour. Hein? Donc, on contrebalance complètement l'œuvre que le diable a voulu mettre dans nos cœurs. Vous voyez ? C'est pour ça que c'est important, à un moment donné, qu'il y ait un affranchissement, qu'on sorte de la prison dans laquelle on a été enfermé, peut-être depuis des années et des années, et qu'on goûte d'une manière nouvelle à la saveur de la vie en Christ. Et puis, quand le diable vient nous embêter, on se repositionne. Et là, vous avez des passages bibliques à la fin de la page 77. Vous avez des ressources. Qu'est-ce que j'ai marqué à la page 96. Si on fait juste un petit cursus à la page 96, il y a d'autres... ressources là qui consistent, vous voyez, si vous allez à page 96, au lieu de l'infériorité, hein, deuxième paragraphe tout en haut, page de gauche, eh bien, je ne convoiterai pas ce qui appartient aux autres, etc. Il y a plusieurs éléments. Hein, je prends courage, je n'ai aucune crainte, mon Dieu va venir pour la rétribution. Voilà, je reviens pour finir à Gédéon. Vous vous souvenez, l'ange de l'Éternel qui vient vers lui, hein? L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et Gédéon, il s'est dégonflé, hein? Il a dit, moi, mais non, attends, tu as vu un peu de quelle tribu je viens, de quelle famille, non, là. Hein? Eh bien là, c'est ce qui est marqué dans cette page 96, hein? C'est de se dire, ben, Gédéon aurait pu répondre autre chose, du style, je suis un vaillant héros, car Dieu est avec moi. Hein? Voilà le repositionnement dans lequel on peut être entraîné. On va prier. Moi, j'ai envie de dire merci, Père Céleste, pour cette merveilleuse équipe qui est là, ces hommes, ces femmes que tu aimes profondément, que tu as aimé même avant la fondation du monde. Merci pour cette soirée que nous avons eue et les textes bibliques que nous avons pu mentionner. Puis moi, je te loue parce que c'est la semaine pascale. Pour moi, la fête de Pâques, c'est quelque chose de tellement extraordinaire. C'est la fête la plus ancienne qui existe sur la Terre. Et puis portée de tellement de signification incroyable. Déjà dans l'Ancien Testament, elle avait une valeur inestimable. Et puis alors en Christ, elle est éclairée, illuminée de mille feux. Et il y a toute cette croix, il y a aussi le tombeau vide. Il y a ce Christ qui nous amène de la présence même du Père, le voile qui était déchiré. Et là, on peut être secouru de manière appropriée à nos besoins. Et puis Jésus envoie le Saint-Esprit, Jésus intercède pour nous. Mais la Bible, c'est une mine inouïe de richesses absolument fantastiques. Alors je te prie pour mes frères et sœurs, pour que par le Saint-Esprit, tu révèles, tu montes, tu parles dans les cœurs. Ici, parmi nous, certains frères, certaines sœurs ont été rejoints par cette thématique de l'autorité à exercer, et ce soir particulièrement par rapport à l'infériorité et l'insignifiance. Eh bien, nous voulons proclamer que ce soir, il y a quelque chose qui est en train de changer, de se mettre en place, et qui pourrait s'opérer immédiatement dans la grâce de Dieu, mais qui peut aussi se dérouler dans ces prochains jours, ces prochaines semaines, peut-être confirmé par les équipiers de prière dans les temps de prière personnels. Mais Seigneur, on proclame ta victoire sur ces domaines et on interdit au diable de venir ôter des graines de vie que toi, Jésus, par le Saint-Esprit, tu as voulu implanter dans les cœurs. Et on te demande de permettre au contraire que ces semences de vie puissent porter du fruit jusqu'au centuple même pour certains, pour certaines. Parce que c'est là ton but, Seigneur. Si tu nous arraches aux griffes du diable, si tu nous fais ouvrier avec toi, eh bien c'est pour qu'on puisse porter du fruit pour ton royaume. Et le diable, il est un ennemi défait, il est un trompeur, il est un menteur. Et on refuse ce joug qu'il veut essayer de mettre sur nos vies, sur nos cœurs. Et au nom de Jésus, on brise tout joug de cet ennemi sur nos cœurs, sur nos pensées. Et merci parce qu'on va pouvoir continuer le parcours de ce cours, on va pouvoir découvrir la prochaine fois comment ces forteresses spirituelles se mettent en place dans nos vies pour être encore mieux à l'affût dans ce combat spirituel et être mieux équipé encore et mieux utiliser ces armes que tu mets à nos dispositions. Et tout cela, nous te demandons pour la gloire de Jésus-Christ. Amen.